One, two, sen çek. It's okay. That's it, man.
Provoscopie, l'émission politique diffamante de la bande FM Montpellier-Rennes, le loup et le renard vous salue en compagnie d'Adrien, le journaliste de RPH Radio Pays d'Hérault. Apprêtez-vous à vivre 90 minutes de palabres et de débats. Il est question aujourd'hui de recevoir la première dame de la cité, Hélène Mandroux. Ce n'est pas si fréquent. Elle a accepté que nous la consultions pour dresser avec elle non pas un bilan de santé, mais comme un état des lieux à mi-mandat. Et puisque c'est le printemps, Provoscopie et toute l'équipe de Divergence avons décidé d'aller au-devant des quartiers, de jouer la proximité en réalisant l'émission en public place François Jaume, en bas de la rue de la Méditerranée. Pour lui être agréable, nous avons convié le banc et l'arrière-banc à assister à l'émission. En sa compagnie, nous allons disséquer les trois personnages qui se sont infiltrés dans son être profond pour faire d'elle un personnage politique de première importance, bien au-delà du clapas montpelliérain. La femme qui s'affirme, la militante socialiste qui se confirme et l'élu de la 8e ville de France. À voir et surtout entendre sur Divergence 93.9, mais aussi en direct sur Radio Pays d'Hérault. Vous savez, c'est cette radio qui est au fin fond de l'arrière-pays, là chez les Paysous, du côté de Pézenas, Montagnac, Lodève, Saint-André-de-Sangonis, enfin, etc. Salut Adrien.
Tu vas te faire des amis, Yves.
Salut mon camarade. Bon, un tout petit jingle. Et bien voilà, donc sur Divergence et sur RPH en direct, Hélène Mandroux, permettez-moi de vous la présenter. Pour si d'aventure vous ne la connaissiez pas, elle ne s'agite pas. Elle est seulement Sagittaire. Véritable Montpelliéraine conçue quelques mois avant la débâcle de 1940, elle suit une scolarité sans embûche au lycée Clémenceau, où officie notamment en philosophie celle qui fondera les cours du midi, Madame Boviatsis. De là vient peut-être son féminisme. Son ambition, vivre autre chose qu'une vie banale, vivre pour les autres. Est-ce pour cela qu'elle se tourne vers la médecine et même l'anesthésie? Alors que ses petits camarades jouent à la Révolution comme d'autres aux soldats de plomb, elle débute sa carrière à la clinique du parc, chez les riches, avant de s'installer à La Paillade en 1975, chez les pauvres. Et ce n'est que tardivement qu'elle entre en politique chez les socialistes, le parti des classes moyennes, dans la série « Ni riche, ni pauvre ». Vite, elle est happée par le pouvoir, sous la houlette du grand Georges. Amovible, elle occupe les grands postes de l'administration municipale avant d'en prendre la tête en 2004, alors que Fraîche vient de conquérir la région. Là, elle quitte son rôle de second couteau, elle ne sera plus la madame maintenant du potentat local, et arrivée au pouvoir, la femme révoltée tente à s'embourgeoiser, fidèle, elle est. Mais elle ne peut tolérer qu'on l'injurie en public, elle ne pardonne pas lorsque sa dignité publique est bafouée. C'est son côté sagittaire. Elle a horreur du scandale, peut-être est-ce pour cela qu'elle s'émancipe. Et rompt avec son mentor en se présentant contre lui lors des dernières régionales. Cela fera dire à Arnaud Montebourg qu'elle incarne la mère courage. Royaliste à Reims, qu'est-elle devenue aujourd'hui? Manie-t-elle autre chose que des symboles comme le mariage symbolique de deux hommes en février dernier? À voir et surtout à entendre sur Divergence 93.9, mais aussi dans l'arrière-pays, du côté de RPH, à Pézenas, Montagnac et Saint-André-de-Saint-Gonis. Voilà, là, on a déjà cadré un petit peu la chose, mais vous allez me permettre la petite chronique habituelle pour cadrer le débat d'aujourd'hui. Dans la vie, certains partent avec des handicaps qui les contraignent à une lutte incessante pour tenter d'exister malgré les autres et de s'interroger sur l'égalité des chances. Oui, certains sont plus égaux que d'autres, ma pauvre dame. Il est plus douillé pour entrer dans la vie de naître dans la soie plutôt que dans la toile de jute. Il paraît plus confortable d'être couillu plutôt que virginal. De même, il fut plus rassurant en 1940 de naître du bon côté de la ligne de démarcation en zone libre, quoique sous la tutelle du vieux maréchal. Mais il est plus difficile de militer au sein d'un parti qui s'interroge en demandant qui va garder les enfants, que de s'inscrire dans un mouvement qui pratique l'utilité marginale. Enfin, ce doit être épuisant d'exercer le pouvoir en butte à toutes les attaques de ses amis. Heureusement qu'il reste les amours pour masquer les emmerdes. Si bien que l'on est femme, que l'on s'en prend à militer et qu'on finit élu, la vie de la femme blanche se révèle souvent difficile. Tiens, on en tient une Hélène, une camarade, une Mandrou, un peu renard dans le poulailler. Certains finissent par s'en rendre compte, comme une Amazone qui traverse la jungle politique, comme une Marianne qui découvrirait le monde tel qu'il est et non tel qu'il devrait être, et d'avoir une pensée émue pour Cervantes et son Don Quichotte. Être femme doit apprendre que l'égalité reste un combat de tous les jours. Être militante permet de découvrir que la fraternité n'est bien souvent qu'apparence. Être élu remet en cause la conception que chacun croit avoir de la liberté. Être, après avoir réussi à avoir, oblige à revoir le grand triptyque qui orne les frontons de toutes les mairies de France qui forment la devise de la République. Être élu incite donc à s'interroger sur les limites de la démocratie, surtout lorsqu'on est issu de la province profonde et que l'on fait face au parisianisme ambiant. Voilà de quoi réfléchir le temps d'un déjeuner, vous en conviendrez. À voir et surtout entendre sur Divergence et sur RPH. Mais avant toute chose, Madame le maire, bien le bonjour.
Bonjour.
On va d'abord passer un tout petit morceau de musique.
Avec plaisir.
Les sabots d'Hélène de Georges Brassens. Hein, et après, on pourra passer à une bonne discussion.
Était tout crotté, les trois capitaines l'auraient appelée vilaine, et la pauvre Hélène était comme une âme en peine, ne cherche plus longtemps de fontaine, toi qui as besoin d'eau, ne cherche plus aux larmes d'Hélène, va t'en remplir ton seau. Moi j'ai pris la peine de les déchausser, les sabots d'Hélène, moi qui ne suis pas capitaine, et j'ai vu ma peine bien récompensée dans les sabots de la pauvre Hélène, dans ses sabots crottés. Moi j'ai trouvé les pieds d'une reine et je les ai gardés. Son jupon de laine était tout mité. Les trois capitaines l'auraient appelée vilaine, et la pauvre Hélène était comme une âme en peine, ne cherche plus longtemps de fontaine, toi qui as besoin d'eau, ne cherche plus aux larmes d'Hélène, va t'en remplir ton seau. Moi j'ai pris la peine de le retrousser, le jupon d'Hélène, moi qui ne suis pas capitaine, et j'ai vu ma peine bien récompensée sous le jupon de la pauvre Hélène, sous son jupon mité. Moi j'ai trouvé des jambes de reine et je les ai gardées, et le cœur d'Hélène ne savait pas chanter. Les trois capitaines l'auraient appelée vilaine, et la pauvre Hélène était comme une âme en peine, ne cherche plus longtemps de fontaine, toi qui as besoin d'eau, ne cherche plus aux larmes d'Hélène, va t'en remplir ton seau. Moi j'ai pris la peine de m'y arrêter dans le cœur d'Hélène, moi qui ne suis pas capitaine, et j'ai vu ma peine bien récompensée, et dans le cœur de la pauvre Hélène qui avait jamais chanté. Moi j'ai trouvé l'amour d'une reine et moi je l'ai gardé.
Bien voilà, retour, j'allais dire, dans nos studios. Non pas dans nos studios, sur la place François Jaume à Montpellier, en bas de la rue de la Méditerranée, en compagnie donc de Madame le maire, Hélène Mandrou, et puis en direct depuis Divergence, bien sûr, mais aussi Radio Pays d'Hérault. Une première petite discussion autour de la femme, de la cité. Madame le maire, une petite série de questions. C'est quoi l'intérêt du féminisme? Est-ce que c'est bien raisonnable? Parce que on dit, et c'est une question très Sciences Po, le travail aliène l'homme pourquoi diable libérerait-il la femme ? Et qu'est-ce qu'une femme libre ? Et puis surtout, là, vous concernant, une femme, pour être femme, doit-elle devenir un homme, notamment en politique ?
Ah, surtout pas. Bon, surtout pas, Dieu me préserve de me transformer en homme. Le féminisme, tout dépend de ce que vous cachez derrière ce terme de féminisme. Par exemple, j'allais dire, je suis féministe quand je dis qu'à travail égal, salaire égal. Donc si ça, si c'est du féminisme, je suis féministe. Par contre, je considère que la femme et l'homme, nous sommes très complémentaires. Et je considère qu'on doit avancer ensemble et en parallèle. C'est vrai qu'au niveau du travail, pourquoi effectivement les femmes n'arrivent pas à choisir le temps partiel et pourquoi effectivement elles ont plus de temps partiel non choisi que les hommes, ça c'est effectivement, il y a un problème d'inégalité. Donc dès l'instant qu'il y a une inégalité, effectivement, je pense que cette inégalité, il faut la corriger, inégalité dans les milieux de pouvoir, c'est-à-dire dans le milieu économique et dans le milieu politique. Donc là, dans tous ces domaines-là où il y a une inégalité, je serai effectivement féministe. Donc féministe, j'allais dire au bon sens du terme.
Mais voilà. Vous considérez quand même que le travail libérerait la femme, tandis que on considère qu'il aliène l'homme.
Le travail, je crois que, vous savez, je pense que le travail est une... Ça fait partie de notre vie, je veux dire. Ce n'est pas une aliénation en soi. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, je crois que ce qui est une aliénation, c'est plutôt le chômage. Être au chômage, ça, pour mon avis, c'est une aliénation. Être au chômage, c'est un drame de notre époque. Donc, pour le travail, c'est une façon plutôt de se libérer, en fait, de se considérer comme un citoyen à part entière, un citoyen qui participe à la vie de la cité. C'est vrai que le travail, c'est aussi ça, mais il y a tous les travaux, entre guillemets, ne sont pas identiques. C'est vrai qu'il y a des travaux beaucoup plus pénibles et beaucoup plus durs que d'autres qui sont beaucoup plus, j'allais dire, agréables à faire. Là encore, de même, tout à l'heure, je vous parlais du travail... du travail partiel non choisi, parfois le travail non plus en lui-même n'a pas été choisi, c'est la vie qui vous a fait que vous êtes arrivé sur un certain travail, mais ce n'est peut-être pas celui que vous avez choisi au départ. Donc le travail oui, mais aussi le travail choisi.
Donc en quelque sorte, la libération c'est l'activité sociale.
C'est-à-dire le travail fait partie d'une insertion sociale, c'est sûr.
Non, parce que l'activité sociale.
L'activité sociale.
Justement, le drame aujourd'hui, c'est l'inactivité sociale.
C'est l'inactivité sociale. C'est pour ça que je considère que la personne qui est au chômage, c'est un véritable drame de société aujourd'hui. Et il y a plus de... Et puisque vous revenez, si je reviens sur le féminisme, on sait très bien que le pourcentage de femmes au chômage est plus important. Il y a plus de femmes au chômage que d'hommes. Et en plus, l'inégalité des salaires. Donc là, effectivement, je crois qu'il y aurait beaucoup de choses encore à corriger. Le débat n'est pas terminé. Le combat n'est pas terminé.
Être une femme libre, alors c'est être une femme qui travaille.
Ah non, ce n'est pas la définition que je choisirais. Être une femme libre, je pense que c'est être une femme libre dans ses choix. C'est pas une femme une femme libre dans ses choix. Je veux dire, si ma liberté, moi, c'est de ne pas travailler, pourquoi pas ? Je veux dire, il y a des femmes qui choisissent de ne pas travailler. Pour moi, donc, la liberté de la femme, c'est la liberté de choisir son temps, la liberté de choisir de travailler ou de ne pas travailler, la liberté de choisir ses loisirs, la liberté aussi dans son couple de décider du jour où on aura un enfant, la liberté de... Voilà, c'est ça, la liberté. Vous savez, le mot liberté est un mot magnifique. Parfois, c'est difficile de choisir. Mais la liberté, c'est justement avoir la possibilité de choisir.
Adrien.
Dans la femme militante Hélène Mandroux, que faisiez-vous en mai 68, à 28 ans ?
Eh bien, en mai 68, vous vous doutez bien que j'étais du côté des 68ards. J'en faisais partie. J'ai fait partie des étudiants qui, effectivement, soutenaient Cohn-Bendit quand on a vu Cohn-Bendit s'agiter sur les pavés. Moi, à l'époque, j'étais déjà médecin, salarié. J'étais attaché des hôpitaux, salarié des hôpitaux.
Vous étiez à la clinique du Parc à l'époque, non ?
Non. Là, je n'étais pas encore au Parc. J'étais attaché des hôpitaux. J'étais anesthésiste des hôpitaux. Et j'ai fait partie, à l'époque, on était très... On a voté à l'unanimité le renvoi du patron. Parce que c'était un petit épisode que je peux vous raconter, qui va peut-être vous faire sourire. Donc j'étais anesthésiste et ce jour-là tout le monde était en grève évidemment et nous n'assumions que les urgences. Et on voit un patient arriver sur un brancard, donc on nous dit voilà c'est une urgence, donc tout le monde arrive bien évidemment, on l'examine, le chef de clinique, moi-même, ça n'avait pas l'air d'être très urgent. Et donc il me dit je le soigne pas, je le pique pas. Ben, j'ai dit si vous le soignez pas, si vous le piquez pas, moi je l'endors pas. Et on a renvoyé le patient. Et c'est, le patient en question était effectivement un privé du patron.
D'accord.
Ce n'était pas une urgence.
Très bien.
Petit épisode de 68.
Très bien, très bien. Alors justement, à propos de femmes, on parle, vous savez, en histoire, des grands hommes qui ont pu faire l'histoire. Il n'y a pas cette expression, les grandes femmes qui ont fait l'histoire. Et ça existe, ça, une femme qui fait l'histoire? Il y a des grandes femmes?
Oh, il y en a eu, c'est évident. Écoutez, je crois que la première, j'allais dire, c'est Cléopâtre, peut-être, non? Non, je pense qu'il y a... C'est vrai que quand on parle...
Elles ne sont pas labellisées en tant que telles, quoi.
Oui, oui. C'est vrai que... On parle de la Grande Catherine, par exemple, Grande Catherine de Russie. Mais c'est vrai qu'il ne faut quand même pas oublier que les femmes n'ont eu le droit de vote qu'en 1945, pour ce qui concerne la France. Alors comment voulez-vous, toutes les femmes qui ont été avant cette possibilité de voter, c'est la possibilité d'être élue, la possibilité d'être désignée. Donc n'oubliez pas qu'en France, il y avait le droit salique, c'est-à-dire que les femmes ne pouvaient pas être reines. Enfin, je veux dire... Ça fait des générations et des générations et des générations que c'est comme ça. Je crois que les conditions n'étaient pas réalisées. Et en plus, quand par hasard une femme émergeait, par exemple Catherine, Catherine de Médicis, on disait oh, ben, c'est la mère d'eux. On reconnaissait la valeur de cette femme, mais en fait, c'était la mère d'eux, des futurs rois. Voilà, donc c'est.
On a longtemps considéré que le rôle des femmes, enfin, le grand rôle des femmes, était dans le boudoir.
Oui, c'est là qu'on disait, derrière un homme se cache toujours une femme. Donc voilà, alors est-ce que les grands hommes auraient existé sans avoir une femme à leur côté? On peut se poser la question.
Et aujourd'hui, vous en voyez des grandes femmes au niveau politique?
Des grandes femmes, mais je pense qu'il y a oui. Je pense que du côté de l'Inde, tout ça, il y a des femmes qui se sont levées là-bas, oui.
Et chez nous, non?
Chez nous, vous savez que je suis à côté d'une qui j'espère va devenir un jour, j'espère qu'elle va être un jour élue l'année prochaine. Je suis aux côtés de Martine Aubry, réellement. Moi, je suis aux côtés de Martine Aubry.
Vous êtes du côté de Martine Aubry maintenant?
Ah, complètement.
Bah, on va y revenir un tout petit peu après, quand tout on parlera fait. De je l'élu
suis,
de la République.
Je suis aux côtés de Martine
Aubry.
Parce
que vous étiez royaliste il n'y a pas si longtemps que ça.
Mais à l'époque, c'était la candidate du Parti
d'accord,
Socialiste.
D'accord. Pour terminer sur cette question de la femme dans la cité, je voudrais qu'on parle un tout petit peu de la loi sur la parité. Une loi qui a été faite en 2000 sur la parité homme-femme au niveau politique. Est-ce que c'était vraiment une bonne idée? Si on en croit Elisabeth Badinter était complètement contre cette
si je suis aujourd'hui maire de Montpellier, c'est parce qu'un jour le Parti Socialiste a parlé de quotas. Je reconnais que ce terme de quota est un terme absolument horrible, horrible. Alors à l'époque, c'était le quota à 30%. Un quota à 30%, ça n'existe pas. J'ai trouvé ça absolument épouvantable. Comment pouvait-on parler de la moitié de l'humanité en utilisant le mot de quota? C'était vraiment horrible comme terme. Et en fait, avec le temps, je me dis que si aujourd'hui je suis maire de Montpellier, c'est parce que c'était peut-être un mal nécessaire. De même que Christine Lazerge, si un jour elle est devenue députée, c'est parce qu'elle aussi, c'est parce qu'il y avait ce sacré quota.
Vous êtes toujours copine avec elle?
Ah oui, tout à fait. Alors maintenant, on parle de parité. Mais alors n'oubliez pas. Mais alors là, la parité, le problème, c'est que la parité, c'est valable uniquement sur les élections, quand vous êtes élu sur liste. Donc un homme, une femme ou une femme, un homme. Mais par contre, dès l'instant que vous avez affaire à une élection uninominale à deux tours, regardez aujourd'hui la réforme qui est en train de se préparer pour élire les conseillers territoriaux, où on va faire une élection effectivement uninominale à deux tours. Ça veut dire que toutes les femmes, pratiquement, qui aujourd'hui sont conseillères régionales, qui ont donc été élues sur liste, vous êtes pratiquement sûr qu'elles vont disparaître. Regardez les dernières élections au niveau des départements, vous avez les conseillers généraux, et puis à côté, derrière, vous avez une remplaçante. Voilà, donc le scrutin uninominal à deux tours n'est pas du tout paritaire, là, pour le coup. Donc il y a encore beaucoup de chemin à faire.
Est-ce que la loi, c'est le meilleur moyen pour faire évoluer les mentalités?
Ah, les mentalités ne bougent pas. Arrêtez la loi, je vous garantis que demain, vous aurez...
Mais est-ce que c'est la solution, la loi?
Ben c'est un ce que je vous dis, un mal nécessaire, c'est peut-être un starter. Parce que ce qui est incroyable dans notre pays, moi, ce que je vais vous dire, je pensais, le jour où on a mis la mixité dès les écoles, dès la maternelle, dès la primaire, tout ça, je me disais, la mixité, ne plus avoir...
Est-ce que ce n'est pas la solution, justement? C'est là
voilà,
où je voulais
le lycée de garçons, le lycée de filles, vous voyez, à l'époque, bon... On était très séparés. Moi, j'ai fait mes études dans un lycée de jeunes filles. Et le jour où on a mis, les écoles mixtes, filles et garçons, dès la maternelle et dès le primaire, j'espérais justement que cette présence, dès le départ, filles et garçons à l'école, je pensais que ça allait peut-être faire évoluer les mentalités. Je pensais que ça allait faire évoluer les mentalités. On s'aperçoit en fait que les mentalités ne bougent pas. Nous sommes dans un pays, vous savez, on est encore très très jacobin en France. On est très très jacobin, on est toujours dans la même image dont vous parliez tout à l'heure. Hein,
on peut quand même penser que les mentalités évoluent de génération en génération.
Je l'espère. Messieurs, la balle est dans votre camp.
Ça fait quand même de 20 ans en 20 ans, hein, de 30 en 30.
Hein. Oui. Moi, j'espère que justement, les jeunes générations... Moi, par exemple, si je me réfère à mes fils, je trouve que, par exemple, mes fils ont une capacité de participer à la vie de tous les jours qui est largement supérieure à mon ex-mari, par exemple. Donc, peut-être que les générations vont peut-être évoluer.
Un mot avec vous sur le mariage homosexuel, Hélène Mandrou. Est-ce qu'on pourrait vous imaginer députée et que vous proposiez un texte de loi légalisant le mariage homosexuel en France comme au Portugal, par exemple ?
Tout à fait. J'ai déjà pris position, effectivement. Dès 2004, quand j'ai été élue maire, un couple m'a demandé si je voulais faire un pacte en mairie. J'ai tout de suite accepté de faire le pacte en mairie parce que ça me paraissait incroyable que les pacts puissent se faire uniquement au tribunal d'instance. Et dernièrement, vous avez eu ma prise de position. Ça, je peux vous garantir que... Du reste, je sais que le Parti socialiste, Martine Aubry, m'a soutenu. Et aujourd'hui, c'est dans le programme pour les élections présidentielles de 2012.
Donc vous êtes candidate sur quelle circonscription, alors, en 2012 ?
Pour l'instant, je ne suis pas candidate sur une circonscription.
Non, parce que si j'ai bien compris la question d'Adrien, il y avait quand même un sous-entendu. Lorsque vous serez
députée...
Mais
j'ai dit si, voilà.
on reste dans le si pour l'instant.
On reste dans le si.
Bon, voilà. C'est pas encore complètement cadré.
Mais en tout cas, je ferai tout.
Madame Mandrou, vous faisiez référence tout à l'heure à la femme libre. Et que pensez-vous de la loi sur la pénalisation concernant la prostitution?
Pénaliser le client.
Ouais. Quel est votre sentiment?
Alors, je vais vous dire. Mon sentiment, alors là, en toute objectivité, comme on dit, la prostitution, ça a toujours existé. Le péripatos, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et les hommes et les femmes, là, nous sommes différents. Et je pense pas que de pénaliser le client putatif, regardez ce qui se passe à la frontière entre la France et l'Espagne. Les derniers sondages montrent que pratiquement 90%, 95% des clients qui vont là-bas sont des Français. Le dernier sondage montre que pratiquement 90% des clients ont moins de 25 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la jeunesse française se précipite là-bas, à la frontière espagnole. Alors ça, par contre, je le critique fortement. Je critique fortement cette espèce de boîte. Je crois qu'il y a 300 chambres.
Compris en France ?
Non, mais là, c'est en Espagne, de l'autre côté de la frontière.
La France réfléchit même à faire la même chose.
C'est le problème des mises en clause que vous posez.
Voilà. Donc là, c'est vraiment une boîte. C'est absolument incroyable qu'on puisse arriver à créer de tels hôtels, entre guillemets. J'ai un doute
sur... En toute légalité, au passage.
Oui. J'ai un doute sur l'efficacité d'une pénalité du côté du client. Est-ce que réellement c'est efficace? J'ai un doute là-dessus. Est-ce que c'est vraiment sur l'efficacité de la pénalité? Je pense que là, on est dans le respect de la personne humaine. Là encore, tout à l'heure, je vous disais, messieurs, la balle est dans votre camp. Là, j'allais vous redire la même chose.
On n'a plus 25 ans. Hein.
Voilà. Non, vous avez compris. Je suis d'accord. Ça se voit, à l'antenne, ça ne s'entend pas. Donc là, je crois que c'est le respect de la personne humaine qui est en jeu, là encore. Hein, c'est le respect de la personne humaine.
Est-ce qu'à Montpellier, vous observez une recrudescence de la prostitution, malgré les maisons closes à la frontière espagnole ?
Écoutez, alors là, les chiffres de la police nationale, je crois que c'est à peu près identique. Hein. C'est simplement, à un moment donné, il y avait une prostitution de jeunes. C'est la jeunesse des filles qui, je crois, aujourd'hui... Et il semblerait qu'elle soit de plus en plus jeune. Et là encore, on en revient, si vous parlez au drame tout à l'heure.
Des lycéennes, oui.
Voilà, on en revient un peu au drame dont on parlait tout à l'heure. On est dans un drame de société. Je vous parlais du chômage, mais on est dans un drame, effectivement, de société. Et quand vous voyez des populations entières qui émigrent de leur pays pour venir chez nous, pensant peut-être qu'elles vont trouver l'Eldorado, mais l'Eldorado, il n'est pas ici non plus. Hein. Et donc là, on se heurte à un problème de société, mais dans son ensemble. C'est un problème social, un problème de niveau de vie, un problème de... Et le vivre ensemble, c'est pas. Et quand je vois les propos de Monsieur Guénan là, qui vraiment tient des propos aujourd'hui sur l'immigration, enfin, justement le non-respect des personnes humaines, c'est grave ce qui se passe.
Alors, je ne sais pas au niveau technique si ça va le faire, mais s'il peut nous mettre un petit jingle de trompette pour qu'on passe à la deuxième partie de notre débat, ce serait carrément tip-top. Bruno, à la technique, c'est tout bon ? Oh, il est bon, le garçon. Bon, maintenant, on va parler avec la militante socialiste. J'aurais une première question.
Après le réveil. C'est pour nous réveiller, ça.
Oui, vous allez même voir pourquoi. Vous allez même voir pourquoi.
Moi, j'ai jamais fait l'armée. Hein,
j'aurais une première question toute simple. Est-ce que vous êtes une fréchienne devenue socialiste ou une socialiste devenue fréchienne? Ça s'est passé comment?
Je suis socialiste avant tout. Alors là, j'ai toujours été socialiste.
C'est pas Frèche qui a fait de vous une socialiste.
Non. Écoutez, tout à l'heure, je vous parlais de mes 68. Je connaissais pas Frèche en 68.
Vous avez quand même réfléchi longtemps. Vous avez réfléchi longtemps avant de vous engager en politique. Bah, vous vous engagez en 82, donc à 42 ans. C'est presque l'âge de la retraite.
Oui, vous avez raison. Mais j'étais engagée avant, mais j'étais engagée. Si vous voulez par là, si pour vous s'engager à politique, c'est être élu, effectivement, je me suis engagée tard. Mais moi, pour moi, être engagée à politique, c'est mettre un bulletin dans l'urne et faire des choix. Donc, je me suis engagée très tôt, il y a très très longtemps, je vous parlais de mes 68, et très tôt, je n'ai jamais mis un bulletin de droite dans l'urne. Jamais, pas une seule fois.
Même pas en 2002 ?
Non, j'ai revoté Jospin. Je savais,
vous avez été plus maligne que moi.
J'avais encore un bulletin.
En Languedoc, voter Jospin, ça revenait à voter blanc.
J'avais encore un bulletin Jospin dans
l'urne. Ça avait d'autres façons de considérer les régionales.
J'avais encore un bulletin Jospin dans l'urne et j'ai remis Jospin au deuxième tour. Je savais très bien que c'est pas ça qui changerait le résultat. Donc j'étais tout à fait tranquille sur le résultat, mais j'ai pas pu. Je ne l'ai pas pu, je n'ai jamais voté. Donc, pour moi, un engagement politique, c'est ça. J'ai toujours voté à gauche.
Ah, c'est quoi être socialiste aujourd'hui ? Pourquoi vous n'êtes pas radical ? Pourquoi vous n'êtes pas communiste ? Pourquoi vous n'êtes pas front de gauche ?
Moi, je fais partie des...
C'est quoi être socialiste ?
Je vais vous dire, moi, je fais partie des élus. C'est vrai qu'il y a des gens qui changent. Moi, j'ai connu des élus qui ont des parcours curieux. Localement, on a eu des gens qui ont été communistes, puis après qui ont été refondateurs, rénovateurs, puis après qui ont été écologistes, puis après qui sont partis, je ne sais pas où. Alors il y a des gens comme ça.
Vous parlez d'un certain nombre de vos adjoints. Là.
Voilà, vous avez qu'à regarder dans la région, vous verrez. Donc il y a des gens comme ça qui passent de l'un à l'autre selon l'opportunité du moment. Moi, pas du tout. Je me suis engagée au Parti socialiste. Très, très tard, parce que c'est vrai que je n'avais jamais éprouvé le besoin de m'engager dans un parti politique. Ça, c'est vrai. Et du reste, à l'époque, je me suis engagée. Bon, quand Georges Frêche m'a demandé d'être sur sa liste en 83, à ce moment-là, j'ai dit bon, je m'engage. Mais pourquoi, par exemple, j'ai toujours gardé ma profession. J'ai toujours gardé ma profession pour ne surtout pas être dépendante de mon indemnité d'élu. C'est-à-dire que je me suis toujours dit, si un jour tu n'es pas d'accord avec le parti auquel tu adhères, tu te retires tout simplement, tu rends ta carte et puis c'est tout, il n'y a pas de problème. J'ai toujours voulu être indépendante.
C'est fréchienne, ça, parce que Frêche aussi, c'était son grand discours. Moi, je suis prof de fac, et donc...
Je pense qu'un élu doit être indépendant de son indemnité, totalement indépendant de son indemnité, parce qu'un élu qui dépend...
Y compris même Julie, sa fille, elle a tenu un discours à peu près du même genre. Quand on lui posait la question, est-ce que vous allez vous engager ? Je fais mes études, j'ai un métier, et quand j'aurai un métier, on verra.
Eh bien, je trouve qu'elle a raison.
Et quelles sont vos indemnités, Hélène Mandreau ? En tant que maire
Ça doit être de l'ordre de 5 000 euros.
Oui. Et vous gardez la retraite de médecin?
Ah, mais j'ai ma retraite de médecin. D'accord. Bah oui, oui, ça oui. Je suis médecin avant tout, comme je vous dis. Hein. Je suis médecin avant tout.
Ah, si vous voulez bien, on va parler un peu du Parti Socialiste quand même, et du Parti Socialiste Hérolleté. Il a littéralement implosé lors des dernières régionales, du fait de l'exclusion de Georges Frêche suite à ses propos dits antisémites concernant Fabius. Est-ce qu'en fait, c'était pas totalement ridicule. Parce que Frêche, on peut dire tout de lui. Qu'il était raciste, je ne pense pas qu'on pouvait dire ça de lui.
Non, mais c'est vrai. Le problème, je crois que... pourquoi les gens ont réagi? Je crois que dès l'instant qu'on a une voix qui est entendue et qui est écoutée, même si on ne l'est pas, on ne peut pas avoir des propos qui peuvent être mal interprétés. La première fois quand il a parlé de sous-homme, je veux dire, c'est pas n'importe qui dit ce mot-là. C'est quelqu'un qui s'appelle les Georges Frêche et que tout le monde écoutait. Moi, personnellement, jamais de ma vie, je n'ai prononcé le mot de sous-homme. C'est un mot qui ne peut pas venir dans ma bouche, même si je suis en colère. Après, la deuxième fois, je n'y étais pas. Je suis arrivée en retard ce jour-là, mais on m'a rapporté ce qui s'était passé sur l'épisode des Blacks. C'est pareil. Donc, je veux dire, on sait très bien qu'il était pas raciste.
Ça avait été déformé, parce qu'en fait, c'était plutôt du racisme anti-blanc qu'il faisait.
Ouais, le racisme, qu'il soit blanc ou noir. Excusez-moi. Le racisme, qu'il soit blanc ou qu'il soit noir, c'est du racisme. Peu importe qu'il soit blanc, noir, vert, jaune, rouge. Un racisme, c'est un racisme. Et je considère que quand on est à un tel niveau de responsabilité, avec toute sa valeur, parce que l'historien, et un historien qui parle, il sait ce qu'il dit. Et on sait, il n'était pas raciste, je suis d'accord avec vous, il n'était pas anti-juif, mais les propos qu'il prononçait pouvaient être interprétés, et les personnes de la rue qui l'écoutent pouvaient interpréter ça. Et c'est ça, moi, je veux dire, ce que je lui reproche, c'est d'avoir prononcé ces paroles, parce que ce n'est pas n'importe qui. Quand vous êtes responsable, vous devez, à mon avis, tourner la langue 7 fois dans votre bouche avant de dire quelque chose.
Vous ne regrettez pas d'avoir suivi les Parisiens sur cette affaire-là ?
Ah, moi, non, pas du tout. Si c'était à refaire, je recommencerais. Parce que moi, j'ai mes valeurs. Et dans mes valeurs, en tant que médecin, vous douterez bien que pour moi, le respect de la personne humaine est essentiel. Je respecte les personnes telles qu'elles sont dans leurs différences. Et c'est pareil, je ne pourrais pas aller attaquer la personne humaine. Je ne peux pas. Et je me rappelle qu'à l'époque des Blacks, il y avait quelqu'un, un élu, qui se tourne vers Georges Frêche et qui lui dit « Oh, tu n'as pas dit Black, tu as dit Africain. » Mais attendez, mais comment un élu peut-il répondre ça ? Comment un élu peut-il répondre de telles choses, de telles imbécilités ? Donc, moi, je reconnais la valeur de l'homme, je reconnais ce qu'il a fait, tout ça. Il n'aurait pas dû dire ça. Il n'aurait pas dû dire ça.
Voilà. Juste une dernière chose, parce qu'avec la tutelle... Donc,
mais je reconnais place, tout ce qu'il a fait. Et je vais vous dire, moi, j'ai toujours été très fidèle à Georges Frêche. Vraiment très fidèle à Georges Frêche. J'ai toujours été avec lui, vraiment. Et je suis sûre qu'au fond de lui-même, je suis sûre d'une chose, au fond de lui-même, il aimait provoquer les gens. Il l'a fait sciemment, il a provoqué. Et vous savez, je pense que c'est un peu comme un enfant par moment qui veut savoir jusqu'où il peut aller et à quel moment le coup de bâton va lui tomber sur le bout du nez. C'était ça, Georges.
C'est pour ça qu'on l'aimait bien, Provost.
Et c'est pour ça qu'on l'aimait bien, voilà. Mais voilà, il a eu le coup de bâton qui lui est tombé sur le bout du nez. C'était comme un enfant.
Au niveau de la tutelle, moi j'ai l'impression, vu de l'extérieur, qu'on assiste depuis quelques mois à une défréchisation du PS local, un petit peu comme à l'époque les Soviétiques avaient fait une déstalinisation. Est-ce que là, il n'y a pas atteinte carrément à la personne, justement, personne humaine, non ?
Non, parce que vous oubliez que la tutelle a été mise en place quand Georges Frêche était vivant. Et cette tutelle a été mise en place avec Georges Frêche, André Vézinet et moi-même. C'est-à-dire que dans cette tutelle, vous aviez deux personnes qui représentaient Georges Frêche, deux personnes qui représentaient André Vézinet et deux personnes qui me représentaient, plus le sage, qui s'appelle Max Lévitin. Donc cette tutelle était équilibrée de fréchistes, de vésinistes et de mandrouistes, si on peut dire, plus un sage. Donc non, la tutelle a été faite avec Georges Frêche, avec l'aval de Georges Frêche. Georges Frêche a donné son aval pour que cette tutelle se fasse. Il ne faut pas l'oublier.
Alors, la dernière chose à propos de la tutelle et des rebondissements, j'allais dire, médiatico-judiciaires actuels, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de Robert Navarro ? Est-ce que c'est vraiment l'homme à abattre ? Est-ce que c'est vraiment le voyou que l'on dit ? Vous le connaissez forcément depuis très longtemps. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire-là ?
Ancien secrétaire fédéral et aujourd'hui vice-président de la région.
Tout à fait.
Premier vice-président.
Non, moi, écoutez, alors là, je ne me ferai aucun commentaire. Je veux dire, la tutelle a fait un rapport. Ce rapport a été transmis à Solferino. Solferino a pris une décision. Maintenant, le procureur a pris lui aussi une autre décision. Moi, je n'ai aucun commentaire à faire, là.
Pourquoi faire aucun commentaire ?
Parce que maintenant, le dossier a été transmis. C'est le procureur. Il va y avoir... Maintenant, il y a une enquête et puis voilà, je n'ai pas à intervenir dans ce dossier-là.
Adrien, je crois que tu voulais élargir le débat au niveau socialiste, parce qu'il y a une question d'actu, c'est au niveau français, concernant le gaz de schiste. Je te laisse la parole.
L'exploitation, voire l'exploration donc, des gaz de schiste situés à quelques kilomètres sous terre. Hier, un rassemblement sur le plateau du Larzac à Nantes. André Vézinet y était. Vous y étiez, Hélène Mandroux ?
Moi, j'étais en Lozère, j'étais pas très loin. Mais je veux dire, nous avons réagi tout de suite, puisque le premier conseil qui a suivi effectivement cet épisode, le conseil municipal de la ville a fait un vœu, justement, et a demandé de ne pas exploiter, de ne pas donner l'autorisation au niveau du gaz de schiste, parce qu'on sait, et j'avais du reste rencontré des scientifiques qui m'ont expliqué clairement les dangers de la méthode, avec notamment en dehors du fait qu'on utilise énormément de quantités d'eau, mais surtout les conséquences de cette recherche. Et donc, dès le départ, nous nous sommes prononcés, tout le conseil municipal s'est prononcé contre et a donc exprimé le vœu que surtout cela ne se fasse pas. Alors, on a vu qu'il y avait un recul, le gouvernement a reculé, et moi, je pense que c'est très, très bien de continuer à mettre la pression de manière à ce que c'est... Parce qu'on a vu aux États-Unis les conséquences que ça a donné aux États-Unis, donc on est tout à fait contre cette autorisation de recherche pour savoir si.
Le seul qui fait divergence, une fois de plus, à l'OSU, c'est Claude Allègre. Qui lui a l'air de dire qu'il n'y a peut-être pas la meilleure idée, mais quand même c'est pas mal, etc.
Ah, mais Claude est toujours un peu. Bon, c'est Claude, voilà. Lui aussi, on l'aime pour ça.
Et alors, quelle énergie pour demain, Hélène Mandron ?
Ah, ben écoutez, alors là, si vous aviez la solution, je serais contente, je vous donnerais le prix Nobel. On sait très bien que les énergies renouvelables, aujourd'hui, nous sommes en recherche, puisque les énergies fossiles ont tendance à disparaître. On dirait que c'est pour ça que nous sommes contre cette exploitation des gaz de schiste. Je sais que les chercheurs aujourd'hui travaillent énormément pour savoir. Comment pourrait-on stocker l'énergie solaire ? Alors là, effectivement, il y a une véritable recherche. Parce que c'est vrai que si nos chercheurs arrivaient à trouver comment stocker l'énergie solaire, ça serait certainement, en tout cas, une énergie...
Et le photovoltaïque, par exemple, sur Montpellier.
Voilà, ça en fait partie, justement.
Et c'est quelque chose que vous envisagez éventuellement subventionner, entre guillemets, pour les habitants de Montpellier ?
Toute la mairie, tout le haut de la nouvelle mairie, par exemple.
Mais tous les toits de toutes les maisons de Montpellier.
Tous les toits, c'est pas... Alors là, je vais vous dire, tous les toits, il y a aussi un problème. Alors ça, c'est les affaires culturelles, vous savez qu'il est la DRAC, parce que le vieux Montpellier, c'est du Moyen-Âge, donc il faut faire attention aux bâtiments, les protéger.
Les fameux architectes des bâtiments.
Voilà, donc il faut faire attention. Mais je vais vous dire, nous sommes, à chaque fois que c'est possible, nous nous autorisons bien évidemment à mettre l'énergie solaire.
Mais subventionner, c'est mener une véritable politique.
On y est déjà, on a déjà démarré là-dessus. Mais simplement, comme je vous dis, tant qu'on n'aura pas trouvé comment on stocke cette énergie solaire, malheureusement, on aura. C'est pour ça pourquoi on développe le tramway, tout ça. Pourquoi on développe tout ça ? C'est pour que les gens laissent leur voiture à la maison. Pourquoi on développe les petites voitures électriques au centre-ville ?
Il existe par exemple des solutions à partir de l'éclairage public. Avec l'exploitation du solaire.
Oui, mais les ampoules
sont... Est-ce que ça peut se démultiplier ?
Vous savez que la ville a une politique justement d'économie d'énergie depuis déjà qui avait été commencée sur l'orge fraîche et que nous continuons. Nous faisons, je crois, si je ne me trompe pas, pratiquement avec toutes les mesures qui ont été prises depuis fort longtemps, je crois que ça représente une économie de 6 millions d'euros par an. Il y a très longtemps que la ville fait des économies. Vous savez que il y a 2 ans, là, au début de mon mandat, là, en 2008, nous avons fait une thermographie, justement, de l'espace pour regarder tous les bâtiments communaux et regarder, effectivement, le dégagement de chaleur des bâtiments communaux. Et en fonction de la thermographie que nous avons eue, nous sommes aujourd'hui, nous travaillons, et l'élu qui a ce dossier en charge, c'est Frédéric Tsitsonis, qui travaille justement pour, à partir de la thermographie que nous avons regardée sur les bâtiments communaux.
Adrien, une dernière demi-question.
Et sur le nucléaire, vous en remettez au programme du PS ?
Sur le nucléaire, oui, je pense que sur le nucléaire, je crois qu'il faut là aussi, il faut savoir, il y a eu des réactions, j'allais dire, bon, quand on est dans l'émotionnel, dans l'irrationnel, donc posons nos valises calmement, regardons calmement. Je crois qu'en France, il y a effectivement une centrale qui est plus ancienne que l'autre. Ben, je pense qu'il faut... Heureusement, en France, il ne faut pas oublier que les centrales ne sont pas au privé. Hein, c'est-à-dire les centrales sont très bien surveillées. Et au Japon, il semblerait que l'exploiteur privé, quand n'ait pas réagi suffisamment rapidement par rapport au drame qui était en train de se faire. Donc je pense qu'en France, nous sommes responsables, nous ne sommes pas en zone sismique du même niveau que le Japon, mais je crois qu'il faut regarder ça calmement, examiner calmement, et voilà.
Donc pour la fin du nucléaire ?
Progressivement, mais pas du jour au lendemain.
Madame Amandrou, pour revenir
au présidentiel.
Par contre, ce qui est une aberration, c'est d'avoir des centrales, mettons en Italie, qui est un pays sismique. Là, c'est une aberration.
Oui, je voudrais revenir sur les présidentielles, si vous voulez bien.
Oui.
Alors, je voulais vous poser une question. Les primaires, à votre avis, c'est une bonne idée ?
C'est une idée démocratique.
Oui, pas de ça. Est-ce que c'est réellement une bonne idée ?
Est-ce qu'on n'atteint pas là les limites de la démocratie ?
Voilà. Alors là, je vais vous dire, je pense que c'est toujours pareil. Quand on a une idée, on dit un an après, il faut faire l'audit pour savoir ce qu'il en est. Bon. Alors, je crois que nous nous lançons effectivement dans une expérience. On tient compte de ce qui se passe aux États-Unis, parce qu'effectivement, aux États-Unis, c'est comme ça que les présidents sont désignés par des primaires dans tous les États. Et ça
ils
marche.
Ont pas que de bonnes années.
Et, ça, idées, bon, et, bah, et c'est comme ça qu'Obama a battu Hillary Clinton, et puis qu'au lendemain des élections, bah, Hillary a travaillé avec Obama. Voilà. Donc, je veux dire, je pense que c'est une démarche intéressante, et donc je crois que ce qui va être important, c'est de voir comment les Français vont-ils adhérer à cette démarche. Je crois qu'on saura réellement. Je crois que l'idée est novatrice, enfin chez nous, parce qu'elle n'est pas novatrice ailleurs, elle est novatrice chez nous, et je pense qu'elle est intéressante. Est-ce que les Français vont saisir cette opportunité de pouvoir désigner en amont leur futur candidat ou candidate? Moi, je pense que c'est intéressant quand même.
En ce qui vous concerne, du coup, on n'a plus de doute, c'est Martine Aubry.
Voilà, tout à fait, moi j'ai choisi.
François Hollande, non?
Non.
Non, non, et DSK non plus.
Non plus, non. Aujourd'hui, ma candidate, c'est Martine Aubry.
D'accord.
mais de manière, après, je serai derrière celui ou celle qui sera désigné, évidemment.
Voilà, on va voir si la technique est toujours.
Au primaire, je suis derrière Martine Aubry. Mais je sais pas. Mais aujourd'hui, Martine Aubry n'est pas candidate.
Un petit coup de trompette pour qu'on passe à la troisième partie de notre débat, en direct sur la place. Place François Jaume à Montpellier, en bas de la rue de la Méditerranée, et en compagnie donc de Adrien de RPH qui est descendu de son arrière-pays. Bon, madame, on va discuter maintenant avec vraiment madame le maire. Ça fait 6 ans maintenant que vous êtes aux commandes de la ville. Et si on devait en faire l'histoire,
presque 7, depuis
2004. Quoi.
Avril 2004, voilà. Oui, avril 2011.
Et du coup, si on devait en faire l'histoire, est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'il y a eu jusqu'à présent 3 temps ? Un premier temps, 2004-2008, une maire désignée sous la tutelle du Grand Georges. Un deuxième temps, 2008-2010, une maire élue qui entre en conflit ouvert avec le président. Et 2010-2011, une maire émancipée qui tente de s'affirmer sans Georges Frêche. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette petite chronologie ?
Oui, effectivement, on pourrait la présenter comme ça. Mais je crois qu'il ne faut pas... c'est pas tout à fait ça. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est vrai, 2004-2008, je suis d'accord avec le fait que 2004-2008, du reste, beaucoup me le faisaient comprendre, je n'avais pas la légitimité du suffrage universel. Puisqu'effectivement, en 2004, c'est quand Georges Frêche a été élu président de la région, et donc il ne pouvait pas cumuler 2 exécutifs, c'est la loi, on ne peut pas cumuler 2 exécutifs. Donc 2004-2008, mais je veux dire même 2004-2008, je me suis opposée relativement rapidement, c'est-à-dire j'ai pris pratiquement dès le départ, quand j'ai décidé de m'attaquer au dossier en rue, notamment quand il s'était produit cet incendie au mois de juillet 2004 au Petit Bar. Et tout de suite, j'ai donc attaqué ces dossiers de réhabilitation, rénovation des quartiers les plus en difficulté. Et là, tout le monde sait qu'effectivement, nous n'étions pas d'accord sur ce dossier. Et je veux dire, j'ai continué ce dossier jusqu'au bout. Donc, je pense que... vous savez, tout le monde me demandait... Est-ce que tout à l'heure vous me demandiez est-ce qu'une femme en politique doit faire comme un homme ? Non. Je veux dire, d'abord, en dehors du fait que je suis une femme et que Georges Frêche était un homme, je veux dire, lui, c'est un prof de fac, moi, je suis médecin. Donc, on ne peut pas avoir les mêmes réactions, les mêmes priorités. Voilà. Donc, cette première période, je veux dire, moi, je me suis positionnée, j'ai pris des décisions qui n'étaient peut-être pas celles que Georges Frêche aurait prises. Hein, bon. Puis, en 2008, j'ai été élue. Effectivement, par le suffrage universel. Et là encore, j'ai pris des décisions que certainement lui n'aurait pas prises. Donc je veux dire, depuis le début, les gens, je me rappelle en 2004, ils disaient que j'allais être une marionnette. Alors là, je veux dire, il y en a un, c'est mon fils aîné, qui m'ont dit, mais maman, il sait qu'ils ne te connaissent pas. Effectivement, je crois que... Mais ça, c'est encore, vous savez,
C'est encore... Sagittaire, ça, non ?
Oui, je suis Sagittaire, effectivement. Mais ça, c'est, on est encore, vous savez, j'allais dire, on a commencé tout à l'heure par le féminisme. Je pense que si j'avais été un homme, on n'aurait pas dit que j'étais un pantin. Mais parce que quand j'étais une femme, je pouvais être qu'une marionnette, évidemment. De même qu'à côté des grands hommes, il y a des femmes. Mais où sont les... Je crois que moi, je me suis positionnée dès le début. Quand j'étais d'accord, j'étais d'accord. Quand j'étais pas d'accord, j'étais pas d'accord. Et tout à l'heure, vous avez parlé des régionales. Je vous l'ai dit, je n'étais pas d'accord sur les propos qui avaient été prononcés parce que ce sont des propos qui ne respectaient pas la personne humaine. Mais ça n'empêchait pas que je respectais Georges Frêche, moi. Je veux dire, vous ne m'avez jamais entendu. Lui, pratiquement dans le premier mois de 2004, il m'a traité de conne. Et alors, alors là, tout le monde en a fait les titres. J'étais la marionnette et puis après, j'étais une conne. Et pourquoi j'ai été traitée de conne ? Alors, je le suis toujours parce que je n'ai pas changé d'avis. En 2004, c'est parce qu'il voulait faire, vous savez, le fameux musée de la présence française en Algérie. Et moi, donc c'est moi qui avais récupéré le bébé. Du reste, je vous annonce que ce musée n'est toujours pas fait en 2011. Hein. Alors, il voulait que ce soit... Il trouvait que je n'allais pas assez vite. Et moi, je voulais faire un musée historique, c'est-à-dire qui relate aussi bien les côtés positifs que les côtés négatifs de cette présence française. Et donc, là, ce jour-là, il m'a dit « Tu es une conne parce que tu vas perdre 6000 voix des pieds noirs ». J'ai dit « Mais moi... »
Mais comment il y avait une espèce de garantie là-dessus, puisque c'était Charles-Olivier Carbonnet, l'historien, qui était
mais je vous assure, le musée, on avait bien avancé, il y avait le scénographe, tout était parti, mais c'était un musée où il y avait la présence à la fois positive et négative. Donc il a récupéré ce dossier parce qu'il trouvait que j'allais passer vite. Le dossier est toujours pavé, mais je suis toujours aussi conne parce que je considère que ce musée doit montrer aussi bien le positif que le négatif. Voilà. Mais,
si vous voulez bien, parlons un petit peu des relations que vous pouvez avoir avec les différents élus de votre majorité. Parce qu'on le voit d'ailleurs régulièrement dans la presse, avec Philippe Sorel, c'est plus le grand amour, quoi. Alors où est-ce qu'on en est ? On a même lu, dans Midi Libre récemment, qu'il était même question que vous lui retiriez sa délégation à l'urbanisme. Ouais, où en est là-dessus ?
Alors écoutez, si vous croyez tout ce qui est dans le journal, je veux vous assurer que alors ça, excusez-moi, messieurs.
C'est pour ça qu'on préférait vous poser la question.
Voilà, vous avez raison. Du reste, c'est pour ça. Je vais vous dire, je préfère la radio et la télévision parce que moi, je parle en direct et mes propos ne sont pas déformés. Que excusez-moi, s'il y a des journalistes qui m'écoutent et qui écrivent du papier, alors.
On l'appelle le menteur, c'est ce que vous voulez dire.
Non, mais je suis assez effarée de voir des fois. Ah oui, de voir ce qui. Comment c'est interprété, déformé, même des fois inventé. Enfin, voilà. Bon, mes relations avec Philippe Sorel, je pense que ce sont des relations. C'est moi qui l'ai choisi comme adjoint à l'urbanisme. C'est un très bon adjoint à l'urbanisme. Par ailleurs, il est conseiller général. De temps en temps, bon, mais on est là encore, quand on n'est pas du même avis, on n'est pas du même avis. Je peux vous dire que, par exemple, sur le choix de, par exemple, au niveau de l'avenue Raymond Dugrand, j'ai choisi Jacques Ferrier, j'ai choisi Nicolas Michelin. C'était pas les choix de Philippe Sorel. On n'en a pas fait des montagnes. Et puis les choix ont été faits, Jacques Ferrier, Nicolas Michelin. Je veux dire, je crois que là, c'est pareil. Moi, personnellement, quand je suis pas d'accord, je ne le mets pas dans la presse. J'avance là, parce que je n'ai je ne me sens pas concernée par toutes ces petites phrases.
Et quant à ce serpent de mer depuis 2008 sur le fait que les Verts intègrent ou pas, un jour ou l'autre, la majorité municipale, où on en est aujourd'hui ?
Écoutez, moi, vous savez très bien qu'en 2008, j'aurais souhaité que les Verts soient dans la majorité municipale, du reste, ils le savent très bien. Mais c'est vrai que vous rappeliez qu'en 2008, quand j'ai commencé à préparer ma liste pour 2008, je n'avais pas la légitimité suffrage universel et donc je me suis retrouvée seule face à deux hommes qui s'appelaient Georges Frêche et Robert Navarro. Et donc il m'a fallu faire une liste de 2008 avec l'un qui avait eu la légitimité en 2001, c'était Georges Frêche, et puis Robert Navarro qui était le premier fédéral. Donc c'est vrai que dans la liste que j'ai aujourd'hui, la liste que j'ai dû constituer pour 2008, dans cette liste, il y a des personnes que j'ai choisies moi personnellement. Il y en a d'autres qui ont été choisies par par Georges Frêche, d'autres qui ont été choisies par Robert Navarro. Donc c'est vrai que c'est pour ça que de temps en temps...
Philippe Sorel faisait partie de quelle catégorie ?
Philippe Sorel, il était adoubé par les trois. Lui. Il faisait partie des... Voilà. C'est pour ça que ça peut créer des tensions, parce qu'il y en a certains qui savent très bien qu'ils ont été adoubés par l'un par l'autre, ou éventuellement par deux ou par trois. Donc,
François Delacroix qui se rapprocherait de vous, une rumeur ou une réalité ?
Ah, François, bah, écoutez, moi, François, ni plus ni moins, comme d'habitude. Je l'ai vu encore,
Parce qu'il s'ennuie, le pauvre garçon, à la région.
Je l'ai vu samedi, j'étais au petit bar, justement. C'est un départ en retraite de M. Nedroumi, vous savez, qui était le responsable de la mosquée du petit bar. Donc, François Delacroix était là, nous nous sommes vus là, voilà. Mais, comme d'habitude, hein, des relations... d'amitié,
pas plus.
Oui, de relations comme d'habitude, voilà.
Je crois que camarade Le Renard voulait nous parler d'une question montpelliéraine, le parc Montcalm, vas-y.
Oui, là, vous avez une chance exceptionnelle, madame Mandrou, d'avoir 26 hectares.
Ah, ça, oui, mais au départ, j'étais toute triste quand l'armée est partie, quand même. Oui. Et maintenant, bon, comme on dit...
Là, vous pouvez marquer votre empreinte, faire quelque chose. Alors, vous avez commencé, bien sûr, hein, avec la consultation, etc.
Ah ben l'ouverture du parc au Montpellieret le 1er janvier, je peux vous assurer que les gens sont contents quand même.
Et justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Ah ben là, pour l'instant, je vais vous dire, tant que je n'ai pas... nous sommes en discussion avec l'armée pour acheter le terrain. Nous en sommes toujours là. J'ai écrit...
où en est cette négociation ?
Eh ben, elle est toujours en cours, voilà. Donc j'ai écrit au ministre, donc M. Juppé. Donc j'ai écrit au ministre, et donc là, on est toujours en discussion par rapport... Mais on va y arriver, mais bon, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire davantage.
Surtout après 2012 qu'on devrait y arriver, quoi.
Oui, j'espère. Encore plus.
Ça ira plus vite, peut-être. Alors.
Ça ira peut-être plus vite.
Et ce serait quoi le projet, alors, votre projet sur ce parc Montcalm, ce serait l'idéal.
Ah non, le parc tel qu'il est, on va surtout le préserver, bien évidemment. Ça, on l'a ouvert au Montpellieret, on va le préserver. Dans cet espace aussi, de façon, j'allais dire, tangentielle, on devrait passer la 5e ligne de tramway, parce que n'oubliez pas que là aussi, c'est important pour l'aménagement du territoire. Cette 5e ligne de tramway qui partirait justement de campus, c'est-à-dire entre la fac de lettres et la fac de sciences, et pour rejoindre le Yves du Manoir, puisqu'effectivement, cette 5e, en passant par Jeu de Paume. Hein, voilà. Donc vous avez cette 5e ligne qui passera et qui passera donc tangentiellement au parc.
Je crois que Adrien avait une question agricole.
Le représentant de la campagne, vous l'aurez compris. Qu'est-ce que vous faites en tant que maire pour développer le circuit court ? Autrement dit, donc les producteurs locaux qui, ici, peuvent vendre à de nombreux Montpelliérains leur production.
Alors, je peux vous dire que déjà, au niveau de la cuisine centrale, effectivement, il y a déjà un circuit court avec des produits bio qui sont déjà au niveau des enfants. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que par exemple, pour préserver tout ça, alors ça c'est, vous savez que Montpellier, nous avons rejoint la Dream Team des villes sur la préservation de la biodiversité. Nous avons rejoint Montréal, Bonn, Nagoya et Curitiba. Et aujourd'hui, il y a aussi, je crois qu'il y a, le Singapour qui doit nous rejoindre. Et donc nous avons rejoint cette Dream Team sur la biodiversité. Et par exemple, quand j'ai préservé l'Agriparc, vous savez, du côté de Saint-Jean-de-Védas, tout cet espace, c'est pareil, je l'ai préservé comme je préserve Montcalm. Et dans cet espace, aujourd'hui, la ville fait son vin, la ville récolte son miel et la ville va même récolter son huile d'olive. Donc vous voyez que, si vous voulez parler...
L'huile d'olive sera meilleure que le vin ?
Ah, mais le vin s'améliore. Parce qu'il faut savoir
Il ne pouvait pas empirer. Hein.
Et non, mais la vigne en question, vous savez que c'était une vigne je suis d'accord avec vous. Mais la vigne en question, c'était une vigne qui n'avait pas été exploitée depuis des années, des années et des années, qui la pauvre, malheureusement, avait été laissée à l'abandon. Et donc là, aujourd'hui, maintenant, ça s'améliore nettement. Et j'en profite pour vous dire que, vous savez que je soutiens les grès de Montpellier, qu'il y a une bouteille qui va sortir. Eh bien, la bouteille des grès de Montpellier va sortir des usines de Saint-Gobain, là, bientôt. Et vous allez bientôt avoir la première bouteille des grès de Montpellier avec. Ça sera, les bouteilles seront gravées ici, grès de Montpellier, et je peux vous dire que vous aurez des vins de grande qualité qui vont arriver.
Et alors, cette chose-là qui vient de sortir, alors, au niveau des vins du Languedoc en général, cette espèce de nouveau classement qu'ils s'apprêteraient à faire entre des vins de toute petite catégorie, pays d'oc, des vins de moyenne catégorie et puis des grands crus. Est-ce que c'est une bonne idée de se lancer dans ce genre de choses ?
Je crois qu'aujourd'hui, je pense que notre région n'a plus, au niveau du rapport qualité-prix, je crois qu'on n'a vraiment plus rien à prouver. Notre région, réellement, a fait des efforts énormes, et je félicite tous les vignerons. Je dirais, c'est pour ça, moi, que je soutiens, que j'ai voulu soutenir ces crés de Montpellier. C'est pour ça que je fais les estivales, pour soutenir nos vignerons. Il y a une qualité aujourd'hui qui est réelle.
Avec Marc Alors, Dufour, mais vous l'avez vu ces derniers mois, Marc Dufour?
Ah, mais je le vois régulièrement. Je peux vous dire qu'il va très bien. Il a eu quelques problèmes, mais il va très bien.
Il passe encore à Montpellier de temps en temps.
Ah, mais je le vois régulièrement, toutes les semaines. D'accord. Je le vois toutes les semaines, et croyez-moi, il va très bien.
C'était pour la plaisanterie, quoi. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot à propos du non-cumul des mandats? Est-ce que vraiment vous êtes sur cette idée non-cumul?
Moi, j'ai toujours été contre le cumul des mandats.
Donc, vous ne vous présentez pas aux législatives en 2012?
Écoutez, là, je ne vais pas vous répondre. J'ai vous dit que je ne vous répondrai pas.
Sinon, c'est que vous abandonneriez.
Je suis contre le cumul, effectivement.
Y compris cumul des mandats dans le temps?
Dans le temps, j'y ai aussi réfléchi. Je pense que dans le temps, je pense qu'il faut au moins, j'allais dire, parce que moi j'ai découvert une chose dans ma profession, entre le temps de la décision et le temps du faire, il se passe, je vois un patient, je décide et je fais. Quand on est maire et qu'il y a une administration, entre le temps de la décision et le temps du faire, il y a un temps de latence énorme. Alors, vu ce temps de latence, je pense que, à mon avis, 3 mandats, voilà, peut-être, voilà. 2, c'est peut-être pas suffisant pour arriver vraiment à réaliser ce que vous avez envie de faire.
Mais dans le temps,
3 mandats, moi je trouve que 3 mandats, ou à la fin de 3 mandats, on peut très bien changer.
Donc vous vous représentez en 2014?
Je me représente en 2014.
Donc Philippe, il va falloir qu'il attende un peu, quoi.
Ah ben écoutez, il attendra.
Et les autres aussi. Bon, ouais, Michael, ouais. Il a le temps, il est jeune, quand même.
Chacun son tour. Bon,
c'est une vertu.
La patience, oui, absolument.
Oh, mais pour les pauvres cinquantenaires, ça devient une punition. Quoi. Ils ont attendu que Fraîche s'en aille. Et bien alors maintenant, il y a vous.
Dans le fond, je vais vous dire, ils n'ont pas de chance,
qui a un avenir, c'est Michael de la Fosse. Quoi.
Ils n'ont pas de chance que la médecine ait fait autant de progrès. Parce que dans le fond, c'est grâce aux médecins si aujourd'hui on vit de plus en plus vieux et si on est en bonne forme, en meilleure forme au fur et à mesure qu'on avance en âge.
Adrien.
Une toute petite dernière question me concernant. Est-ce que le pendentif que vous portez, là, la lettre M.
Mandrou.
C'est Mandrou ou Montpellier, voilà.
C'est Mandrou. Et c'est M. C'est très beau le verbe aimer.
Adrien, ben justement, pour conclure notre petit bavardage de un peu plus d'une heure, tout simplement, est-ce que vous ne regrettez pas d'être une femme?
Ah, surtout pas. Mon Dieu, non, surtout pas. Surtout pas, au contraire. Je crois que, vous voyez, il n'y a pas longtemps, j'avais entendu Kessel, vous savez, qui vient d'écrire ce livre « Indignez-vous ». Et qui disait que justement, il trouvait qu'il faudrait davantage de femmes en politique parce qu'il trouvait que les femmes étaient plus courageuses et plus pragmatiques. Alors, puisque nous avons du courage et que nous sommes plus pragmatiques, je considère que je suis ravie d'être une femme.
Donc, pas de problème là-dessus. Bon, en tout cas, remerciement à Technique, hein, la personne de Bruno, à toute l'équipe de Divergence, ainsi qu'à Radio Pays d'Hérault, et puis aussi à Jean qui nous accueille dans son restaurant sur la place en bas de la rue de la Méditerranée. Nous étions en compagnie d'Hélène Mandrou. Semaine prochaine et pour 15 jours, le loup et le renard partent se ressourcer dans leur tanière. Durant ces 2 semaines, vous aurez le droit à un best-of de proboscopie préparé par notre jeune collègue Simon Morin. Nous souhaitons de bonnes vacances et vous disons au 9 mai, toujours sur le 93.9, mais aussi en public, place Franchoisome, en bas de la rue de la Méditerranée, puisque toutes les semaines, jusqu'à fin juin, nous y serons, et nous y serons très certainement en compagnie d'Adrien et de Radio Pays d'Hérault, cette radio de l'arrière-pays héraultais, mais qu'on adore. Salut Adrien.
Salut à tous et merci
beaucoup. Salut le renard Madame le maire, merci de nous avoir consacré une bonne heure ensemble sur Divergence.
Merci de m'avoir invité, bonne journée.
Au revoir.